Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne bilingue et podcast A New Wind, un vent nouveau. Je suis Marguerite, votre présentatrice. Aujourd'hui, je reçois un intellectuel et un jeune entrepreneur sénégalais, un professionnel dans l'agroalimentaire. Monsieur Malik Ahmed Diop est notre invité. Il est le fondateur de Dervish Agrobusiness. Je suis très honorée de l'avoir aujourd'hui pour ouvrir notre rendez-vous en podcast du mois de juin 2020. Pour un petit rappel, nos podcasts du mois de juin 2020 sont centrés autour des secteurs de base comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, la couture et la cosmétique. Voilà, bienvenue aujourd'hui Malik, comment vas-tu?
Bon, écoutez Marc, je vais très bien. Je profite de l'occasion pour te remercier de m'avoir invité parce que New Wine est une source de fierté pour tous les jeunes africains parce que ça leur permet d'avoir une nouvelle fenêtre de vision et de pouvoir partager leur passion et leurs objectifs avec les autres jeunes entrepreneurs africains. Donc,
merci, c'est vraiment magnifique. Je te remercie du compliment. Ça fait super plaisir d'avoir un retour comme ça. Et moi, par contre, je suis impatient de partager ton parcours que je trouve exceptionnel. Et je pense que les auditeurs vont beaucoup apprendre de toi aujourd'hui. Déjà, on va commencer par ton parcours scolaire. Monsieur Diop est à son master en management et développement avec une spécialité en marketing et commerce international. Il a fait la plus grande partie de sa carrière. Il est passé par des microcrédits et aussi des banques classiques. Il a travaillé plus de 5 ans dans le secteur, mais aussi il a eu une expérience dans le secteur de la mine avec une entreprise qui exploite le zircon au Sénégal. Et au-delà de ce parcours professionnel, Malik a tout quitté pour se lancer dans l'agroalimentaire ou l'agrobusiness. Aujourd'hui, Malik a 2 fermes qui ont une valeur financière assez conséquente avec 4 employés. Et dans ces fermes, il élève des poules, il y a des poules, il y a des moutons, il y a des vaches, il y a des chevaux. Et il a aussi à côté, il fait du maraîchage. Et c'est ce genre d'entrepreneur qu'il faut mettre en avant, à mon avis, et parce qu'on a tellement à apprendre d'eux. Je pense que Malik, aujourd'hui, va nous donner à tous, moi y compris, une leçon de confiance en soi-même, d'entrepreneuriat et d'audace. C'est absolument ce qu'il nous faut parce que le temps passe, on a beaucoup de projets, mais on ne se lance pas. Mais quand on voit les exemples comme Malik qui se sont lancés, ça nous réconforte, ça nous donne du courage pour nous lancer. Merci d'être là aujourd'hui, Malik. J'apprécie énormément ton temps et on va se lancer dans les questions. Dis-moi, parle-moi un petit peu de ton métier de fermier.
Oui, merci Margot. Bon, c'est un métier classique parce que il y a une citation qui dit que dès l'instant où on commence à faire ce qu'on veut, on arrête de travailler. Moi, je sais, c'est ce que je mets dans la tête à chaque matin. Ce que je fais, c'est une passion d'abord, c'est une passion. Avant d'être un boulot, c'est une passion. Parce que même quand j'étais banquier, les week-ends, j'allais souvent à la ferme, je passais du temps là-bas. Donc, c'est une passion que j'ai eu à fructifier, que j'ai eu à démarrer, et que c'est un métier comme les autres. C'est un métier pas du tout rudimentaire ou bien pas du tout humiliant ou bien pas du tout rabaissant comme on dit. Parce que le souci avec les jeunes africains, encore une fois, c'est qu'ils pensent que s'ils ne portent pas une belle chemise, de belles chaussures pour aller travailler, ils ne travaillent pas. Non. Moi, je pense que ça fait belle lurette que j'ai pas apporté de beaux habits parce que j'en ai quasiment plus besoin actuellement. Donc, c'est un métier passionnant, parce que c'est un métier qui nous réserve d'énormes surprises. Vous savez, ce qui est le plus passionnant avec le fait d'être fermier, c'est une chose, par exemple, moi, personnellement, la meilleure chose qui m'arrive dans ma ferme, c'est par exemple que les mangues ou bien des fruits que j'ai semés produisent et que j'en mange et que j'en amène à la maison. Pour moi, il n'y a pas un sentiment plus satisfaisant que ça. Le métier de fermier, c'est un métier comme un autre. Genre, je me lève le matin à 9h, je vais à la ferme. J'ai un planning bien défini par rapport à l'achat des aliments, par rapport à l'achat des engrais, par rapport à l'achat de telle ou telle chose. D'habitude, je les fais les lundis. Je vois les besoins des chairs, des chevaux, des moutons. Les lundis matin, j'achète tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont ils ont à manger la semaine. Ça me permet d'abord de finir avec cette tâche. Ensuite, financièrement et dans l'organisation du travail, ça me permet de pouvoir voir venir, comme on dit. Donc, si j'achète tout ce dont j'ai besoin lundi, toute la semaine durant, ou presque, je ne fais que bonifier. Genre, je vends les œufs, je vais mettre ça dans mon compte. Les poulets de chair, c'est pareil. Les mangues, c'est pareil. Donc, ça me permet de pouvoir faire une situation hebdomadaire le dimanche. J'ai dépensé le lundi 1 000 francs, j'ai gagné 1 200. Donc, cette semaine, j'ai 200 francs. Si je paye les 50 francs aux emplois, il me restera tant le mois. Donc, c'est ça, en fait. Et que je suis dedans, mais je ne suis pas là-bas comme on dit, comment dire, comme un manager. Genre, je fais faire, certes, mais la plupart du temps, je fais avec eux. Quand je viens, par exemple, et que je vois qu'il y a un de mes employés qui donne à manger aux poules, aux poulets, ou bien qui leur donne à boire, moi, je l'aide. Genre, par exemple, les chevaux, la plupart du temps, sur 80% du temps, c'est moi qui leur donne à manger et à boire. C'est moi qui les lave des fois. Parce que, encore une fois, c'est une passion. C'est une chose que je fais avec plaisir. C'est une chose que j'aime faire et que je continuerai de faire. Même si j'avais la plus grande ferme du monde, je continuerai de faire ça. Parce que je l'ai dit au début, c'est un travail qu'on doit aimer avant de pouvoir en bénéficier. Si tu ne l'aimes pas, ça ne va pas le faire. Parce que des fois, ce n'est pas toujours rose. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est ça, en fait. C'est...
Dis-moi, pourquoi avoir fait ce choix de carrière?
Parce que déjà, j'en avais marre de travailler pour les autres. Il y avait beaucoup trop de contraintes. Déjà, je ne veux pas trop faire comme si je dénigrais, mais j'avais un emploi où il y avait beaucoup de travail côté terrain. Mais j'avais beaucoup de soucis avec mes maux de tête. Parce que c'était le travail. Non, non, tu avais signé un contrat, tu étais obligé. Même malade, des fois, tu y allais. Parce que comme ça me faisait très souvent, je ne pouvais plus prendre des day off. Donc, j'étais obligé de travailler. Ensuite, par rapport à la deuxième chose, mon dernier emploi, ça s'est pas trop passé comme j'ai voulu parce qu'il y a eu des promesses non tenues. Donc, il a fallu que je sois à l'arrêt. Quand je me suis dit que voilà, c'était la dernière fois qu'une personne me promette quelque chose et qu'il tienne pas parole. Donc, si je
Ouais, je
travaille pour
comprends.
mon propre compte, s'il y a déception, je serai la première personne à me décevoir moi-même. Donc, ce sera pas grave. Je n'en voudrais qu'à moi-même. Donc, c'est par la suite que je me suis dit que voilà. J'aime les animaux, j'aime l'agriculture, moi. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Ça va me permettre de, voilà, de pouvoir faire quelque chose que j'aime. Et ça va me permettre, ça me permettra surtout de bénéficier de ma liberté totale. Par exemple, si je vais à la ferme à 9 h et qu'à 11 h, j'ai un besoin à aller à Dakar, par exemple, régler un truc, moi, je le fais. J'ai pas besoin de demander l'autorisation de qui que ce soit. Vu que je suis mon propre boss. Donc...
Beaucoup de gens qui se lancent aussi dans l'entrepreneuriat parce que, ben, écoute, c'est cool d'être maître de son temps. Enfin, je dis maître, entre guillemets, quoi, mais c'est cool d'être en mesure de disposer de son temps comme on veut. Donc, c'est une liberté précieuse.
Absolument,
Et
absolument, c'est ça, en fait.
parle-moi un peu de tes débuts. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Tu l'as un petit peu mentionné en disant que ça ne s'est pas bien passé, enfin, ton dernier boulot, et après, que ta passion pour les animaux et tout. Mais bon, parle-moi un petit peu de tes débuts. Comment ça s'est fait physiquement? Quelles sont les premières étapes que tu as prises? Parce que je vais quand même rappeler que ça fait plus de 3 ans que tu es fermier et que tu t'es lancé dans ta carrière solo. Pas vrai?
Okay. Les premières étapes que j'avais prises, c'est qu'il y a une des fermes qui appartient au vieux, au daron, à mon papa. Donc, comme la structure était déjà sur place, donc j'avais quelque chose pour débuter. Donc, le truc, c'est que bon, voilà, tu vois, papa, j'ai essayé avec le boulot, ça n'a pas marché, ou bien je ne me vois pas dedans. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me laisser, moi, je vais gérer. Après. Par la suite, c'était pas trop ça, parce que il y a une différence entre un jeune qui gère et un vieux qui gère. Le papa, il était juste là-bas parce que c'était un passant pour lui. Il y travaillait pas. Il aime, il, c'est un, c'est un, je vais dire, c'est un ingénieur agronome de formation. Donc, il a un lien particulier avec l'agriculture. Donc, moi, tout ce qui l'intéressait, c'était d'avoir un lieu où il pouvait passer du temps, aller lire ses journaux, traîner un peu. Voilà, il faisait pas ça comme un boulot parce qu'au fond, il n'en avait pas besoin parce qu'il a autre chose comme source de revenus. Donc, il avait acheté le champ juste par, voilà,
Par passion.
par passion. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'était ça en fait. Donc, j'ai repris ça, j'ai essayé d'améliorer ça. J'ai mis des pondeuses. 1000 au début, c'était 1000 au début. C'était 1000 pondeuses au début. En ce temps-là, il n'y avait pas la crise agricole. Donc, les œufs se vendaient à 2000, 2200 francs par tablette. Donc, ça te permettait très vite de pouvoir avoir un bénéfice qui te permette de commencer une autre banque. Donc, la deuxième banque, c'était 1500. Ce qui facilitait la chose, c'est que la bande de 1000, elle pouvait se nourrir et aider l'autre bande à nourrir. Donc, tu n'avais pas de bénéfice parce que les bénéfices, tu les remettais sur l'autre bande. Donc, tu fais ça avec un développement à la chaîne rapidement, tu te retrouves avec trois bandes. Avec trois bandes, un de 1000, une de 1000 du moins, une de 1500, une de 2000. Ça te fait peut-être 4000, 4500 sujets. Ça, ouais. Donc, les bénéfices des trois bandes-là, ils te permettent, par exemple, d'acheter deux juments de 2100. Ça te permet aussi de commencer avec l'élevage cher. Tu mets 500 sujets parce que les bénéfices, je m'en servais pas pour acheter une voiture ou bien pour mon développement personnel, mais je m'en servais pour élargir ma base d'activité.
Donc, tu as
Je
réinvesti
sais
tous
pas
tes bénéfices
si
au
tu
début.
comprends ce que je veux dire. Voilà. Par exemple, je te donne un exemple. Là, voilà. En élevage équin, la première jument que j'ai vendue avec son fils, c'est avec cet argent-là que j'ai acheté mes premiers sujets en mouton. Tu comprends? J'avais pas
Oui.
vendu les chevaux pour m'acheter une voiture ou bien pour me faire plaisir. Non, j'ai vendu mes chevaux pour acheter des moutons. J'avais acheté deux bonnes femelles pour commencer mon élevage bovin. Tu vois, genre. C'est comme ça que je faisais en fait. Donc, à un moment, tu peux élargir ta base d'activité. Tu ne seras jamais liquide, certes, mais au moins, tu peux ajouter à chaque fois un côté d'un élevage que tu faisais pas auparavant. C'était ça le but en
Mais
fait. Et
c'est
c'est toujours le but. Je cherche toujours à améliorer. Ouais. Parce que je crois que
Non,
c'est il y a 2 semaines, j'ai investi dans les poulets d'élevage, les cochons, les Sussex. J'ai investi dedans. Donc je vais commencer ça petit à petit après pour essayer de produire et d'améliorer. C'est comme ça que je fais d'habitude. C'est ma façon à moi d'améliorer en fait.
c'est très intéressant, Malik. Du coup, on a des ressources limitées, des fonds limités quand on commence un business. Mais avec les 1000 poulets les 1000 pondeuses du début, tu as développé ton activité, tu as réinvesti dedans jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu te retrouves avec une ferme avec combien d'animaux déjà?
Ok,
Au
j'ai
total,
pas compté, mais bon. Au total, il y a une vingtaine de, il y a une quinzaine de bœufs, il y a une vingtaine de moutons, il y a une dizaine de, une, presque une dizaine de chevaux. Tu vois, il y a beaucoup de poulets, de chèvres, de pondeuses, j'ai pas compté, mais bon, il y a quand
Malik,
même.
impressionnant.
C'est une ferme. Pas comme je voudrais que ça soit, mais c'est une ferme où je peux faire visiter une personne avec fierté. C'est ça, en fait.
Mais oui, vraiment, c'est très, très impressionnant et c'est très, très motivant à écouter. Et dis-moi, par rapport à l'autre partie au maraîchage, quels sont les produits que tu fais? Parce qu'on a parlé des mangues, en off, on a parlé, tu m'as dit que tu avais des mangues aussi. Et c'est la saison déjà.
Oui, c'est la saison.
Au passage, si parmi les auditeurs, il y a des personnes qui sont intéressées par l'achat de mangues, de produits, parce que je sais que Malik, il est très dynamique, il est très ouvert aux collaborations, il est toujours à la recherche de débouchés pour ses produits. Il a des mangues, il va nous en parler un petit peu plus. Et c'est la saison des mangues. Voilà, il n'y a pas meilleur mangue que les mangues du Sénégal. Je vous invite à prendre contact avec Malik. Vous ne serez pas déçus. Il a une approche très, très professionnelle. Il est, franchement, contactez Malik si ces produits vous intéressent, honnêtement. Et dis-nous un petit peu ce que tu as sur la ferme en ce moment,
Merci.
dans le maraîchage.
Merci beaucoup pour la petite publicité. C'est vrai que pour les mots, il y a des entreprises. L'année passée, c'était des Italiens. Cette année-là, c'était des Français. Ils viennent prendre ça au culot. Donc, voilà. J'ai de très bons produits par rapport à ça. Ils en ont pris plus d'une tonne cette semaine même. Donc, voilà. Par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin d'une bonne qualité de mangue pour l'importation ou l'exportation, je suis votre emploi. Maintenant, par rapport au maraîchage, actuellement, nous avons récolté les oignons. On n'a pas encore posé ça, on les a juste récoltés, on a mis ça au dépôt. Là, cette semaine, lundi ou mardi, on va commencer à les mettre en sac, à les mettre en sac et tout. S'il y a des personnes aussi qui ont besoin d'oignons, ils sont disponibles à la ferme actuellement. Donc, c'est ça. Et on prépare le terrain pour faire des tomates. Et pour la saison à venir, on va faire de l'arachide pour deux raisons. Surtout par rapport au sujet au bovin. Il mange beaucoup de paille. Acheter ça devient un peu cher. Donc ce qu'on fait, c'est que nous avons peut-être plusieurs hectares à exploiter. On va faire tout ça en arachide. Ça va me permettre de pouvoir vendre de l'arachide, certes, mais surtout, on peut avoir 200, 300 sacs de paille qui nous permettront de faire vivre les bovins pour 6 mois. C'est juste des astuces parce qu'on ne peut pas tout acheter. Donc, à un moment donné, il faut être astucieux. Il faut essayer de produire, et c'est ça le challenge pour un fermier, de produire le maximum de ce que les sujets y mangent. Donc, si tu as des chevaux, si tu as des bœufs et tout, au lieu d'acheter tout le temps, tout le temps, tout le temps, on cultive aussi. Ça nous permet d'avoir beaucoup de paille. Ça nous permet de nourrir les moutons, les bœufs et tout. Et même par rapport au bœuf, on a fait des partenariats avec des agriculteurs, astaghfirullah, avec des agriculteurs qui sont au niveau de Saint-Louis et autres, Rosbert et autres, ceux qui produisent le riz. Donc après, ils nous vendent aussi la paille de riz à un très bas coût. Ça nous permet aussi d'avoir une réserve pour les bœufs et autres. C'est comme ça qu'on fait d'habitude parce que entreprendre au Sénégal, c'est un peu délicat. Donc, il faut aussi être très astucieux. Il faut être astucieux. Il faut pas être carré. Moi, je le dis très souvent dans tous les domaines où tu veux aller, 1 plus 1 font 2, sauf en agriculture et en élevage. Parce que tu as tes prévisions, tu as tes souhaits, mais ça se passe jamais comme prévu. Il y a toujours quelque chose qui va fausser tes calculs. Donc, ça nécessite surtout un très haut
Je vais
niveau
vous reprendre
d'adaptation. Tu peux pas rester
et
là.
voilà, on va rentrer dans les difficultés. Ma première question, c'était par le coup que tu rentres dans le secteur et tu as un petit peu parlé comment tu rebondis par rapport à ces difficultés-là. Mais dis-nous un peu plus. Quelles sont les difficultés principales que tu as rencontrées au début et qui sont récurrentes et comment est-ce que tu essaies de tourner autour de ça?
Ouais, la première difficulté, c'est que, voilà, quand tu es entrepreneur au Sénégal, tu n'as pas le soutien. Tu n'as pas le soutien de l'État. Si tu as du soutien, c'est par rapport, peut-être, des fois, tu as un souci d'argent, il y a le vieux qui te dépanne. Tu n'as pas assez de. Le fonctionnement des banques en général, et je sais de quoi je parle, il n'est pas trop fait pour ceux qui sont dans l'agrobusiness. En fait, le truc, c'est que ceux qui travaillent avec les agriculteurs qui travaillent avec certaines banques de la place, actuellement, ils ont du mal à accéder aux fonds bancaires pour la bonne et simple raison que depuis presque un an ou plus, le secteur est en crise. Il y a des soucis pour écouler nos produits et tout, que ce soit les œufs ou les poulets de chair, par exemple. Donc, les banques aussi, ils sont un peu réticents parce que si le prix est bas, si l'agriculteur, il a du mal à vendre ses produits, naturellement, il peut pas payer il peut pas payer ses dettes. Il peut pas. Parce que c'est sur la base de sa production, des ventes qu'il fait, qui se base pour payer. Donc, quand il y a une banque de la place, tu vois, des gens, ils vont pour faire un dossier. Mais dès que c'est marqué agriculteur, ils vont rejeter ta demande. Il faut même pas, on peut pas leur en vouloir. Ils sécurisent aussi leur sous. On peut pas leur en vouloir par rapport à ça. Donc, c'est ça. Le deuxième souci, c'est que par rapport à l'État, il n'y a aucune structure officielle, je dis bien, je pèse mes mots, Même s'il y a des agences pour l'agriculture, des agences pour l'agriculture, c'est des mots, tout simplement. Il n'y a aucune structure qui est là pour appuyer carrément les agriculteurs. C'est soit avec un peu de chance, tu réussis, alhamdulillah. Si tu réussis pas, tu es en faillite. Même par rapport aux agences d'investissement qui investissent, par exemple, soi-disant pour aider les jeunes qui veulent entreprendre et tout, c'est politisé. Tout est politisé au Sénégal. Tu vois, par exemple, on est là, il y a la crise du COVID-19. Il y avait des fonds dégagés par rapport aux aides alimentaires. Dans ces aides alimentaires, il y avait des œufs. Dans ces aides alimentaires, il y avait des poulets de chair. Dans les aides alimentaires, il y avait beaucoup de sujets qui, par exemple, moi, j'aurais pu participer, faire ma modeste contribution en peut-être en prêtant à l'État ou en lui vendant des sujets. Mais non, quand ceux qui gèrent le groupement des agriculteurs de la région Thiès, ils sont allés pour faire une demande de quota par rapport au sujet de chair et au sujet de et aux œufs, ils leur ont clairement dit que le marché a été donné à une seule personne. Et cette personne, elle détient une multinationale. Donc, encore une fois, il y a un laxisme de l'État par rapport aux petits producteurs. Et ça impacte parce que ça impacte et d'une mauvaise façon parce que nous sommes dans un pays où à 70-80%, nous sommes dans l'informel. Les gens, ils travaillent pour eux-mêmes. Les gens, ils travaillent juste pour survivre. Donc, s'il y a eux, ça, s'il y a aucun mécanisme pour les appuyer, c'est voilà, tu vis parce que tu es chanceux, ou bien tu meurs parce que tu n'as plus de sous. Parce que c'est un milieu où, surtout par rapport à l'agriculture, il y a beaucoup de pertes. Il y a beaucoup de pertes. Et les marges ne sont pas conséquentes. Surtout par rapport au poulet de chair, tu mets 500 poulets de chair, tu te retrouves avec 200 000 francs de bénéfices. Donc, par 45 jours, c'est pas beaucoup. Ça peut même pas couvrir la masse salariale. C'est pourquoi on essaie d'étaler notre champ notre champ de performance pour au moins essayer de combler les vides. C'est ça, en fait. Il y a beaucoup trop de laxisme de l'État par rapport aux petits producteurs. Il y a aucun mécanisme pour les soutenir. Il n'y a aucun mécanisme pour les protéger contre d'éventuelles crises. Et c'est ça, le drame, en fait.
Du coup, en fait, bon, après, ces problèmes-là, c'est juste difficile à entendre. Bon, si on se met à. Moi, dans le débat, là, dans mon approche, je sais que l'État est juste absent dans nos problèmes. Et si on attendait. C'est juste malheureux, c'est écœurant, c'est difficile à entendre, concevoir, mais je pense que comment dire en anglais, we're better off, on est mieux à faire sans, on est mieux à leur prendre comme on l'État, on prend pas comme une ressource, on prend juste comme un problème et on essaie de voir comment on peut contourner l'État pour quand même mettre en place son activité et on essaie de trouver des solutions en dehors d'eux. Du coup, les entrepreneurs comme toi sont très très ingénieux parce que malgré ces difficultés là qui barrent la route et qui ne facilitent pas du tout, qui barrent littéralement la route, tu as réussi à trouver des chemins, des raccourcis autour de ça, tu as pu créer ton entreprise et bien entendu, petit à petit, tu t'es fait une place dans le secteur et aujourd'hui, tu es une fierté, tu es non seulement une fierté locale, nationale et aussi internationale. Moi, ça me fait super plaisir de te connaître, de parler de toi et de t'introduire à des ressources, par exemple. Et honnêtement, quand j'entends les difficultés que tu viens de lister là, ta gloire, elle est encore plus grande parce que malgré tout, en fait, Malik, malgré tout, des personnes comme toi, vous êtes tous les jours sur le terrain et vous arrivez quand même à produire, tu arrives quand même à vendre et tu arrives quand même à vivre de ta passion. C'est pas petit, Malik, c'est très, très impressionnant.
En fait, comme par exemple, moi personnellement, j'arrive à comprendre, je suis une personne très obstinée. Moi, quand j'ai une chose en tête, c'est que cette chose-là, elle doit se faire. Quand j'ai un échec aujourd'hui, si j'ai un échec aujourd'hui, pour moi, c'est fini. Le truc, c'est que la prochaine fois, je dois réussir. Je ne perds jamais mon temps à occulter un échec. Je vais certes apprendre des leçons, je vais en tirer des leçons et tout, mais je me dis pas que c'est fini. Par exemple, si je mets une bande de 500 et qu'il y a 300 mortalités, il n'y a pas de souci. Ce sont les risques du métier. Je continuerai de faire. La prochaine fois, je vais pas mettre 500, je vais mettre 700. C'est comme ça que je suis parce que personnellement, j'ai parlé de l'État parce que j'ai voulu me faire un porte-parole des agriculteurs, des petits producteurs. J'espère qu'ils vont apprécier. Mais personnellement, je ne pense jamais à l'État quand j'ai un souci. Quand j'ai un souci, je ne pense jamais à l'État. Actuellement, avec le COVID-19, il y a la mairie de Thiès qui prend les sujets des agriculteurs à crédit. Moi, je ne leur donne jamais mes sujets parce que je me dis qu'il n'y a aucune garantie. Tu leur donnes des sujets, ils comptent, après ils te donnent un reçu. Moi, je ne sais pas si l'argent, tout l'argent qu'ils prétendent, qu'ils annoncent, ça va venir. Je ne suis pas sûr aussi que s'ils l'ont, est-ce qu'ils vont payer leurs dettes? Je ne sais pas. Je ne vais pas travailler avec l'État. Ils ne m'aident pas, je ne les aide pas. C'est aussi simple que ça. Moi, je m'occupe de moi, je m'occupe de mon business. Maintenant, et pourtant, il y a beaucoup d'opportunités que l'État pouvait donner aux petits éleveurs. Il y a beaucoup de bases militaires, mashallah. Il y a beaucoup de par rapport à l'alimentaire, il y a beaucoup d'achats que fait l'État. Il pouvait décentraliser ça parce que, par exemple, la police de Dakar a pas besoin, l'école de police de Dakar a pas besoin que les poulets qui nourrissent ces agents viennent de Thiès. C'est des exemples, ainsi de suite. Le truc, c'est qu'il fallait juste décentraliser, il fallait juste donner la latitude à ceux qui gèrent les achats de pouvoir acheter là où ils souhaitent et surtout de pouvoir donner un coup de main à un petit producteur. Le truc, c'est que tu ne l'aides pas à fonder son entreprise, tu ne l'aides pas à en mettre en place. Ce que tu peux faire, et en l'aidant, tu l'aides toi-même, c'est que l'État, s'il avait par exemple donné un coup de pouce à Malick Diop, ce qu'il pouvait, il a 4 emplois actuellement, il pouvait, de par l'élargissement de ses activités, prendre 4 employés de plus, c'est 4 chemins de moins. Donc, c'est dans l'intérêt de l'État d'aider les petits producteurs, c'est dans l'intérêt de l'État d'aider ceux qui entreprennent. Parce que s'ils ont une bonne santé financière pour pouvoir mettre en œuvre leurs souhaits, si ça grandit, parce que moi, j'en suis à 4 employés, mashallah. Mais dans ma tête, dans mon cœur, je travaille pour en avoir 4 000. Pourquoi pas? Le truc, c'est d'être ambitieux. Mais pour avoir 4 000 emplois, il faut que dans leur fait, ceux qui nous dirigent essaient des fois de penser à nous quand ils prennent leurs décisions. C'est bien beau d'être le proche du président, mais à chaque fois, s'il y a un marché à tenir, ça ne sort pas du cercle présidentiel. Moi, je me dis qu'à un moment donné, le gars qui perçoit tous ces avantages-là, il n'a pas de mérite en fait. Il a juste eu du bras long. Et pour moi, c'est pas ça la réussite en fait. Pour réussir, il faut avoir fait du chemin, mais ce n'est pas parce que je connais Margot et qu'elle a un pouvoir de décision et qu'elle m'a fait profiter que je suis un self-made man. Non, je ne suis pas un self-made man. Au contraire, j'ai été un gars construit de toutes pièces par une personne. C'est ça, en fait. C'est bien beau. Tu vois, beaucoup de gens qui donnent des leçons de voir, voilà, j'étais en galère, j'étais seul avec ma femme, j'étais seul avec ma famille. Bon, voilà, je mangeais pas. Bon, la plupart du temps, c'est de la langue de bois, c'était des histoires toutes faites. Ce sont des gars qui ont été fabriqués par des personnes. Tout simplement, ils sont là, ils ont été proches, ils ont été au bon endroit, au bon moment plutôt. Ils ont connu Margot qui leur a donné un marché de quelques milliards. Ils ont fait ça, ils ont pris leurs bénéfices. Tu as été fait. Le truc, c'est juste que, voilà, tu racontes des histoires juste pour pouvoir être légitime, mais bon, ce n'est pas le cas, en fait.
Oui, mais malheureusement, c'est ça la corruption, c'est ça le favoritisme hein, au niveau dans les institutions. C'est ça la corruption. C'est juste que l'État ne joue pas son rôle l'État doit avoir un rôle central et donner la chance et les opportunités à égalité. Mais bon, chez nous, il ne faut même pas espérer cela. Dis-moi, j'ai une question ici. Est-ce que tu vas uniquement sur Thiès? Non, parce que tu as parlé des producteurs italiens ou français qui sont venus chez toi. Mais bon, est-ce que tu as un marché local ou tu es plus ouvert à l'international ou c'est un mélange des deux?
Non, pour l'international, je ne suis pas ouvert, carrément. Je t'ai parlé d'acheteurs qui viennent d'Italie ou de France, mais eux, ils ne traitent pas directement avec nous. Ils viennent, ils ont des contacts au niveau local. C'est eux qui viennent prendre leur sujet. Je t'avais envoyé une petite vidéo. Tu vas avoir aucune personne étrangère dedans. Il n'y a que des Sénégalais parce qu'ils ont des personnes contacts qui viennent prendre chez nous. Donc, on va dire que l'aliment qu'on leur vend, c'est pour l'international, c'est à l'international, mais nous ne traitons pas directement avec eux. Il y a toujours un intermédiaire entre nous et eux. Peut-être c'est, voilà. Par rapport à ça, avant la fermeture des transports et tout, j'avais des clients sur Dakar, j'avais des clients sur quelques villes, sur Djoutbel, sur Tiv, et ça me permettait de pouvoir vendre, de pouvoir transporter les produits, par exemple les œufs ou bien les poulets de chair. J'avais même des clients sur Ziguinchor. Je leur mettais les œufs, des fois 500 plateaux de le lundi et les vendredis, sur un bus, mais le bus il est à l'arrêt actuellement parce que personne ne peut plus voyager. Donc ça a carrément réduit notre champ de manœuvre. On peut plus trop produire nos sujets. C'est ce que je disais au vieux l'autre jour. Il me dit d'arrêter un peu de la production. Je lui dis que c'est sur ça que je travaille. Je ne veux pas arrêter. Si j'arrête, c'est que je ne travaille plus. Donc je continue à produire en me disant que voilà, des opportunités, ils vont finir par arriver tôt ou tard. Donc c'est ça. Maintenant, par rapport à ça aussi, même sur
Oui.
Thiès, nos clients, tu vois, il y a beaucoup de restos qui ferment avec le couvre-feu. Ce n'est même plus intéressant pour les restos d'ouvrir. Tu pars ouvrir à 17h pour fermer à 20h. Ce n'est pas possible. Tu ne vends pas. Donc, il y a beaucoup de restos qui ont fermé. Donc,
C'est vrai.
normalement, et logiquement, ça, je dirais, logiquement, il y a une baisse de leur achat. Ils produisent pas, ils vendent pas. Donc nous aussi, on ne vend pas parce que nos poulets, c'était pour les restaurants, nos œufs, c'était pour les boulangeries et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si eux, nos clients, ils n'achètent pas, nous, on n'a pas qui fournir. Le truc, c'est qu'après, tu fais une production de 500 poulets de chair que tu vendais en une semaine. Maintenant, avec 500 poulets de chair, tu peux traîner 3 mois, 3 semaines, 1 mois avec. Facilement.
Wow. Mais c'est mais du coup, vu que ça s'est passé, les entrepreneurs sont maintenant obligés de prendre en considération ce genre d'événement-là. J'espère que ce ne sera pas récurrent, mais dans nos stratégies d'entrepreneuriat ou de business, on doit aussi maintenant commencer à penser au cas où des événements comme le COVID-19 réapparaissent où il y a de l'arrêt. Comment est-ce qu'on peut contourner cela? Donc, ce serait aussi intéressant que ouais.
Non,
Et dis-moi.
il y a des choses que je trouve illogiques par rapport à ça. Vous pouvez pas demander à des gens de vivre avec le virus alors que tout ce qui leur permet de vivre reste fermé, en fait. Pour moi, il n'y a pas de logique. Voilà, maintenant, il va falloir vivre avec le virus. D'accord. Il va falloir respecter les gestes barrières. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais si, par exemple, tu empêches au restaurant
Tu
d'ouvrir
fais
jusqu'à
référence
certaines heures. Tu empêches aux gens de voyager. Tu empêches aux gens de faire le travail convenablement. Donc, on ne peut pas aussi leur demander, on ne peut pas vouloir une chose. Au contraire, allez, tu peux aller t'amuser, mais bon, je ferme la porte de la maison. Ce n'est pas logique, en fait. Et c'est justement ça que nous sommes en train de vivre. Voilà, tu peux aller, va t'amuser, bébé, va t'amuser. D'accord, j'y vais. Mais j'ai fermé. Non, tu peux pas y aller, j'ai fermé la porte de la maison. Il n'y a pas de logique par rapport à ça. Donc, soit on laisse tout fonctionner comme d'habitude, soit on ferme tout. C'est aussi simple que ça.
Ouais. Et dis-moi, quels sont tes projets du moment, du coup? Quels sont tes projets du moment?
Un projet du moment, bon, ils sont simples. Essayer de bonifier ce que j'ai actuellement. Parce que personnellement, je ne sais pas pour le moment de faire de nouveaux investissements. Je vais essayer de gérer avec ce que j'ai actuellement, histoire de voir comment ça va finir. Parce que là, nous naviguons tous à l'aveuglette. Nous naviguons tous à vue. Le truc, c'est qu'on ne sait pas quand ça va se finir. On ne sait pas comment ça va se finir. Et c'est très difficile parce que tu produis pas plus beaucoup, tu as du mal à vendre, et puis pourtant les devoirs que tu as, les expériences que tu as, ils changent pas. Donc, c'est un souci. Le truc, c'est que moi, je vais essayer de plus axer mes efforts sur la production, sur le maraîchage. Je vais axer mes efforts carrément sur le maraîchage. Je vais essayer de combler le gap que je dois combler sur les chairs et autres, sur le maraîchage. Il faut que j'arrive à produire des denrées de première nécessité. Par exemple, des oignons, après, on va essayer avec les pommes de terre, on va essayer avec les concombres, on va essayer avec les tomates. C'est déjà, on est déjà en train de préparer le site. Là, au moins, on sait que si on produit et qu'on va au marché, on va essayer, on va pouvoir vendre ça facilement aux commerçants qui vendent des légumes et tout. Donc, voilà, le truc maintenant, l'objectif, c'est de répondre aux demandes du moment, aux demandes du moment. Tu essaies de produire des choses qui seront faciles à écouler. C'est ça le challenge actuellement. C'est ça le challenge. Parce que plus se permettre de faire certains investissements à risque. Non, non. Le moment n'est pas à ça.
C'est une très bonne stratégie, Manu. Et bon, bah, écoute, mine de rien, on est arrivé à la fin de l'interview et j'ai trois questions. Ce sont mes questions relax, je les appelle. Et dis-moi, qui est-ce que tu aimerais entendre sur notre chaîne?
Qui? C'est une question à laquelle je ne m'attendais pas.
Ah
Mais
oui?
ouais, je ne m'attendais pas trop à ça.
Enfin,
Mais
j'aime bien te prendre en jeu. Vas-y, comme ça. J'ai
comment?
quelqu'un qui m'a dit sur Barack Obama. J'ai dit, bon, je vais essayer Barack Obama.
Je ne pense pas, Barack Obama, c'est un pousser le panier du dessus. Mais bon, je vais voir. Tu sais, moi, j'aime bien les personnes qui ont confiance en elles. J'aime bien les personnes qui n'ont pas froid aux yeux. Ce sont mes modèles. J'aime bien. Même si on les traite d'arrogants, j'aime bien ce genre de personnes. Donc, moi, j'adore écouter les interviews de la Cheikh Diouf. Honnêtement.
Ah.
Ouais. Ils s'en foutent de ce que les gens pensent. Ce qu'il veut dire, il le dit. Ils s'en foutent de la manière. Et ils pensent vraiment à ce qu'il dit. Moi, j'aime bien ce genre de personnes, ceux qui croient en elles-mêmes, parce que c'est eux qui m'inspirent, en fait. Donc, j'aimerais bien le voir sur votre chaîne, Ella Diouf. En plus,
Elle
c'est une personne que j'apprécie, même si je la connais pas personnellement. C'est mon joueur préféré depuis tout jeune. Et puis, j'adore sa façon de penser, honnêtement.
J'ai une section sport où je reçois des. Bon, je ne l'ai pas trop développée, je devrais m'y mettre hein, parce que je ne suis pas très dans le bain, je vais dire. J'ai reçu un coach sportif américain il n'y a pas longtemps et je suis en train de travailler sur plus de contenu pour le sport. Et donc, là, je trouve que c'est une bonne idée ça. Je vais faire au mieux.
D'accord.
Dis-moi, quel est ton livre préféré? Et s'il y a un livre, un article ou quelque chose que tu as lu récemment qui t'a marqué ou il y a longtemps aussi?
C'est Sauvez mon amour d'Elif Shafak. D'Elif Shafak. Je ne sais pas si tu as lu.
Non. Sophie, mon amour.
Sauvez mon amour, Sophie. Sauvez mon amour.
Sophie.
Sophie,
Sophie, la religion.
le soufisme, là, genre les croyances soufis.
Mon amour.
Ouais,
Wow.
Sophie, mon amour, ça parle de la rencontre de Shams de Tabriz et de Rumi, Mawlana Rumi. Tu le connais, le poète mystique.
Parler de lui.
Rumi. Pourtant, on dit que c'est le poète avec le plus d'adeptes. Il en a beaucoup en France. Il a même des adeptes qui ne sont pas musulmans et tout. C'était un chant de l'amour, en fait. Il pensait que tout pouvait se soigner par l'amour et il avait raison. Tu as
Il
raison.
a raison.
Ouais. Donc, le livre, je vais t'envoyer la couverture, c'est Soufi mon amour d'Elif Shafak. C'est un livre qui m'a vraiment marqué. C'est un très bon livre que je conseille à tout le monde.
D'accord. Et qui est ton artiste préféré? Peu important que ce soit un chanteur dans la musique ou dans la peinture ou dans la sculpture, est-ce qu'il y a un artiste que tu aimes particulièrement?
Ça va un peu te surprendre, mais j'écoute pas de musique. J'écoute pas de musique. J'écoute jamais de musique.
Okay. Mais tu as parlé d'un poète là. Bon, c'est
Quoi?
pas de la musique, c'est de la poésie, mais c'est lyrique aussi.
Ouais, c'est Rumi. Je lis beaucoup de ses écrits. J'ai lu beaucoup de ses écrits. Rumi, j'ai lu aussi, il y a un autre poète mystique soufi, Ibn Arabi. C'est lui qui a écrit le traité de l'amour. Je lis aussi ça. Je fais beaucoup de lectures par rapport au soufisme, mais surtout par rapport au self-made man, les vrais, je dis, les vrais, je dis, ceux qui ont réussi à partir de rien, parce que c'est sur eux que je m'inspire, c'est sur eux que je prends modèle, c'est sur eux que je copie des fois, surtout par rapport à certaines situations. Tu les lis, tu vis la même chose, donc tu fais la même chose que en espérant que ça marche, que tu aies la même chance. C'est ça, en fait.
Ok. Bah,
Apparemment,
écoute,
j'écoute plus trop de musique, donc même si je te donne un exemple, ça aurait été des exemples de musiciens que j'écoutais du temps de quand j'étais étudiant, genre moi dans l'été, je Bob Marley, j'écoutais beaucoup de reggae et tout. C'est rien d'original, j'écoutais beaucoup de reggae.
That's a good one. Ok, Malik. Bon, je te remercie d'être passé aujourd'hui, de m'avoir accordé de ton temps. Franchement, merci beaucoup, j'apprécie. Et voilà, on est arrivé à la fin de l'interview. Merci, Malik, d'être passé. Je remercie les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, qui sont restés avec New Wind en vent nouveau. Je vais ajouter les contacts de Malik sur la description de l'épisode. Comme ça, si vous avez envie de voir ce qu'il fait, ses activités et tout, vous pourrez toujours aller consulter sa page Facebook. Et ben voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et à très bientôt.